on avait déjà remarqué en 2003, à l'occasion du 30e anniversaire, une mobilisation importante autour des questions de justice non résolues et des questions de mémoire. Et on observe la même chose à l'occasion de ce 40e anniversaire. C'est l'occasion, au Chili comme ailleurs, de revenir sur les plaies qui sont parfois encore mal refermées, pas refermées, liées à ce coup d'État. Et par ailleurs, c'est aussi une question plus structurelle depuis la transition à la démocratie des années 90. Puisque les conditions de cette transition, on les connaît parfaitement. Les militaires ont remis le pouvoir aux civils, moyennant une impunité dont a bénéficié Pinochet jusqu'à sa mort en 2006, mais dont ont bénéficié également de nombreux bourreaux des années noires. Et donc, il est logique que les familles des victimes elles-mêmes, survivantes, torturées, continuent à demander justice, indépendamment des commémorations. On a donc une convergence des deux phénomènes qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le 11 septembre 73 demeure dans l'espace politique et social chilien un moment absolument essentiel sans lequel on ne peut pas comprendre le Chili contemporain.
Est-ce que la question de l'amnistie des militaires est-elle vraiment la pierre d'achoppement principale, voire la seule, ou bien y a-t-il d'autres éléments qui entretiennent ces blessures ?
Il y a une question liée à la justice des bourreaux qui n'ont pas été punis et qui continuent, je dirais, à couler des jours heureux dans leur caserne ou dans leur retraite dorée au Chili. Alors cette question, au fond, elle tend peu à peu à s'amenuiser, puisque un certain nombre des acteurs de 73 sont en train de disparaître peu à peu. Le Chili est le seul pays de la région qui, à aucun moment, n'a organisé des vagues de procès. Hein, voyons ce qui se passe aujourd'hui en Argentine. Aujourd'hui, très longtemps après la transition de 83 en Argentine, on a des vagues de procès, notamment à l'échelle locale, dans les différentes provinces, qui reviennent justement sur ces questions de justice. Le deuxième élément, c'est la question de la mémoire, où on pourrait avoir l'impression que la question de la mémoire a été réglée avec l'inauguration, il y a 18 mois environ, du musée de la mémoire à Santiago, mais ça n'a pas complètement apaisé non plus les débats à ce niveau-là. D'une part, il y a, je dirais, les héritiers du pinochetisme qui revendiquent aussi une mémoire à eux, du coup d'État et des années de plomb. Et puis d'autre part, le musée de la mémoire a créé pas mal de polémiques au sein de la gauche chilienne, parce que ce serait une certaine mémoire de l'unité populaire et du coup d'État et des victimes de la dictature, mais pas une mémoire qui rendrait de compte dans toute sa diversité des victimes et des crimes qui ont été commis. Bon, et puis le troisième élément de discussion très fort aujourd'hui sur l'héritage Pinochet, sur l'ombre portée du coup d'État, c'est la question du modèle économique. Ce qui est assez intéressant dans le cas chilien, c'est que, bon, d'une part, on le sait bien, le Chili de Pinochet a été le laboratoire grandeur nature des théories néolibérales qui avaient été élaborées aux États-Unis dans les deux décennies qui précédaient, et à partir de là, a essaimé dans le monde entier pour devenir finalement le principal critère de la bonne gouvernance. Ce qui est assez intéressant à constater, c'est que aucun des gouvernements de la transition, ni les gouvernements démocrates chrétiens des années 90, ni les gouvernements socialistes des années 2000, et évidemment pas Piñera depuis 2010, n'ont rompu avec ce modèle. Certes, par exemple, Bachelet, à partir de 2006, a réinjecté un peu d'argent dans un certain nombre de secteurs sociaux, la santé par exemple. Il n'en demeure pas moins que le principal héritage aujourd'hui, toujours parfaitement vivant dans la société chilienne, c'est cette dimension économique, avec une double conséquence très paradoxale. D'une part, des indicateurs économiques jugés par des observateurs comme tout à fait remarquables, des investisseurs étrangers qui ont une confiance énorme dans les capacités du pays, un commerce extérieur florissant qui se diversifie avec l'Asie notamment, et par ailleurs des conséquences sociales monstrueuses. La destruction des services publics, notamment des services publics de l'enseignement, depuis la grande loi de 1979, et ça jamais on est revenu dessus, et puis au bout du compte, une très inégale répartition des revenus au Chili. Le grand paradoxe du Chili aujourd'hui, c'est un pays qui va très très bien économiquement et qui est souvent désigné comme un jaguar de l'Amérique latine. Et en même temps, c'est l'un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine dans la répartition des revenus.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Chili est celui rêvé par Augusto Pinochet ?
On n'en est certainement pas loin. Si vous voulez, la principale matrice du coup d'État en 1973, c'est l'éradication du cancer marxiste. Ça a été fait aussi bien par la répression que par la restriction des libertés publiques. Et puis la transition, ensuite, correspond peu ou prou à l'effondrement du bloc soviétique et, je dirais, à la disparition progressive du paradigme marxiste dans le jeu politique contemporain. Donc de ce point de vue-là, les objectifs premiers de la junte militaire le 11 septembre 1973 ont été atteints. Et effectivement, ensuite, le Chili est entré, conformément aux prescriptions des Chicago Boys que Pinochet avait inséré dans son gouvernement, est entré dans une ère néolibérale dont il n'est pas sorti et qui donc correspond tout à fait à ce que voulait faire Pinochet.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe encore aujourd'hui un certain consensus sur les institutions léguées par la dictature et sur le modèle de société qu'elle a instauré, aussi bien parmi la classe politique que parmi la population ?
Oui, le consensus, il existe dans une certaine mesure parce que le modèle néolibéral n'a pas été remis en question. C'est un premier signe extrêmement fort d'un consensus au sein de la classe politique. Et puis, il existe aussi au travers de toute une série d'autres éléments. Aujourd'hui, le Chili vit toujours sous une constitution qui a été mise en place au début des années 80 par Pinochet, qui certes a été amendée sur un certain nombre de points dans les années 2000, mais qui reste fondamentalement la constitution de la dictature. D'autre part, ce consensus des élites politiques autour de certains points de l'héritage, on a pu le mesurer également au moment de l'arrestation de Pinochet à Londres, en 1998, sur la volonté du juge espagnol Garzón, et la mobilisation de l'essentiel de la classe politique pour faire en sorte qu'il ne soit pas jugé en Angleterre. C'était quand même quelque chose de tout à fait remarquable à observer. Et il est vrai qu'aujourd'hui, une part de l'opinion chilienne continue à mettre en exergue un certain nombre d'héritages du temps long, des années Pinochet, qui auraient créé ce Chili performant sur la scène économique. Et d'ailleurs, ceci renvoie à la nature même de la dictature. On a parfois tendance à se représenter la dictature chilienne comme des régimes qui ont abattu leurs mains de fer sur des sociétés qui ne souhaitaient pas ces régimes. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées. Tous ces régimes ont bénéficié d'une forme de consensus. Alors, il y avait évidemment des opposants, il y avait évidemment des victimes, mais ils ont tous bénéficié d'une vraie base sociale au sein de l'opinion, et c'est finalement ça que l'on peut lire encore aujourd'hui.